À toi Gilbert, et merci beaucoup.
Okay, ben merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ce thème qui m'est cher. Donc, nous sommes tous thérapeutes, hein, et je voudrais déjà faire une précision de vocabulaire dès le début, c'est-à-dire que j'emploierai le mot émotion pour ce que les neurologues appellent émotion, c'est-à-dire un événement subi qui se produit dans l'environnement et qui déclenche une adaptation immédiate du corps avec augmentation de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, sudation, etc., etc. Et donc, cette adaptation est immédiate et en général brève, c'est-à-dire elle est limitée au temps pendant lequel dure la manifestation extérieure. C'est ce que les neurologues appellent émotion. Et vous savez qu'il y a six émotions de base que vous connaissez tous, je ne vais pas vous les redire. Et d'autre part, on appellera état émotionnel ce que nous sommes amenés à soigner, ce que les gens viennent nous voir pour soigner des états émotionnels qui, eux, peuvent durer très longtemps, être répétitifs et très invalidants aussi. Bien souvent, ces états émotionnels sont liés à des émotions de base ou une répétition d'émotions de base qui ont pu avoir lieu dans le passé. Et les gens ne sont pas toujours conscients que tel état aujourd'hui relève de ce qui leur est arrivé à l'âge de 4 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Notre travail va être éventuellement tenez, parce que les gens viennent, ils sont là, ils nous parlent de ça. Et nous, il faut qu'on aille chercher des fois ce qu'il y a au fond, la petite poupée, celle de 4 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, etc., ou 25 ans, qui est la source de leurs difficultés. La plupart des thérapies efficaces que nous connaissons maintenant sont des thérapies qui passent par le corps, comme Tipeee. Moi, j'ai été formé à Tipeee il y a fort longtemps par Francis Fraisse. Je crois que le protocole a évolué, simplifié, c'est très bien. Je vois sur le site de la PESE que le protocole est très simple et très efficace. Le MDR, ben, c'est multiplié en ajoutant des mouvements des yeux ou des tapotements avec un habillage psychologique, etc. Mais c'est grosso modo la même chose. Après, vous avez le brain spotting, qui est aussi très utile, très efficace pour soigner en particulier pour moi les états dissociatifs. J'aime beaucoup me servir de ça, je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Et puis vous avez tous les Tipeee et tous les comment, TEFT, FAST-EFT, EFT, etc. Bon, toutes ces thérapies passent par le corps, c'est comme ça. Et au fond, on est amené, quand on soigne des gens dans ces états-là, à un moment, à leur dire, bon, bah, écoutez, maintenant, est-ce que vous voulez bien fermer les yeux et puis voir ce qui se passe dans votre corps quand vous me racontez ça, quand vous pensez à cette situation, à quel endroit du corps vous sentez quelque chose. Et après, on va travailler sur cet endroit du corps avec différents outils, différents selon, au fond, la méthode que l'on emploie. Alors, si on revient à la base, les notions de base, et Olivier a eu parfaitement raison de citer le début du texte de Deborah Dana l'annonce de ce webinaire, en disant, Deborah Dana nous dit, nous venons au monde en étant conçus pour nous connecter, nous sentir en sécurité dans notre corps, notre environnement et nos relations avec les autres. Et notre système nerveux autonome, c'est celui qui est un système de surveillance et qui est toujours sur ses gardes et qui veille à cette sécurité. Eh bien, la compréhension du fonctionnement du système nerveux autonome a été grandement améliorée dans la fin des années 1990-2000 par un Américain qui s'appelle Stephen Porges, dont on dira deux mots tout à l'heure. Oui. When you select test speaker and microphone, you'll be presented with a series of steps. Simply follow the prompts by answering yes or no. Je ne comprends pas ce qui s'est dit, mais.
Non, mais c'est un micro qui était ouvert, je l'ai fermé, c'est bon, tu peux y aller, Gilbert.
OK. Donc, nous passons notre vie à nous adapter. Nous ne pouvons pas ne pas être en relation avec l'environnement, avec l'air qu'on respire, avec la lumière, avec la nourriture, avec les personnes qu'on connaît, etc., etc. Donc, nous passons notre vie à nous adapter. Ces adaptations sont silencieuses la plupart du temps, sauf quand, dans l'environnement, il se produit quelque chose qui change l'état de notre corps. Et c'est ça qu'on va appeler émotion. Ce changement brutal dans lequel il y a une réaction physiologique, c'est une réaction neuronale, biochimique, c'est-à-dire la volonté n'intervient pas. La volonté va essayer d'interpréter a posteriori ou de s'adapter, mais sur le coup, c'est notre corps est conçu pour fonctionner comme ça. Donc, ces émotions, si elles sont très très fortes ou très répétitives, vont être mémorisées et vont fonctionner ensuite comme des alarmes dans notre corps. Alors, et s'il se produit quelque chose dans l'environnement qui ressemble à ce qui a été engrammé lors de la première émotion ou d'une des émotions successives, notre corps va se réactiver comme si c'était la première fois. Donc, alors, ça se réactive dans, il faut bien comprendre que pour que ça se réactive, il faut qu'il y ait dans l'environnement quelque chose qui ressemble, mais aussi qui ait en même temps les mêmes paramètres. Je vous donne un exemple. Une femme prend tous les jours, quand elle sort du boulot, elle prend, mettons, elle a 40, 50 ans, je ne me souviens plus, dans ces âges-là, elle prend le métro tous les jours à Paris pour reprendre son train pour Fontainebleau. Bon, il y a toujours du monde sur cette ligne-là, la ligne 14, il y a énormément de monde, on est serré, etc. Et un jour, dans cette ligne-là, elle fait une espèce de malaise, elle est très très mal, et elle descend à la station suivante, elle reste sur le quai un certain temps pour récupérer, et puis elle remonte et elle rentre à Fontainebleau, à son domicile. Et quand elle consulte, elle ne sait pas pourquoi ça lui est arrivé. Donc le contexte, c'est je suis dans le métro, donc je ne peux pas sortir. Je suis serré, il y a des gens autour de moi, il y a des gens qui me touchent à droite et à gauche. Ça, c'est comme ça tous les jours. Et donc on demande à cette femme, mais écoutez, essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a eu de différent par rapport aux autres jours, est-ce qu'il y a eu des problèmes au boulot, est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela, vous êtes dans le métro et vous allez vous connecter à un moment où tout va bien, vous êtes dans le métro comme d'habitude, et puis laissez venir ce qui a pu se passer, qui a déclenché cette alarme. Et à un moment, elle dit, ah, mais oui, j'ai compris. Il y a plein de monde autour de moi, mais un monsieur, ça doit être un aftershave, ça ressemble au parfum d'un homme qui m'a agressé il y a quelques années. Donc, si vous voulez, ce parfum-là, elle l'a peut-être ressenti d'autres fois, mais pas en étant confinée, en ne pouvant pas sortir, en ayant des gens qui touchaient son corps. Donc, pour que l'émotion soit active, il faut que les paramètres soient là. C'est ça l'idée un peu, et ça se vérifie, pour moi, dans ma pratique, ça se vérifie très, très, très souvent. Voilà. Il faut aussi, si vous voulez, l'émotion, elle sera active, et il faudra aussi voir quelles sont les différentes portes d'entrée sensorielles. C'est-à-dire que, par exemple, une institutrice vient me voir parce que elle ne sait pas pourquoi, mais elle est très mal à l'aise avec son directeur d'école. Pourtant, il a l'air d'être très gentil, mais quand elle le croise dans les couloirs, elle va très mal. Bon. Alors, fermez les yeux, laissez venir, vous croisez le directeur dans les couloirs, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Sentez bien votre corps. Alors, pour moi, la question clé, c'est comme ça que je la pose, c'est est-ce que votre corps a déjà ressenti cela dans le passé? Je ne demande pas quel souvenir ça évoque, mais cette sensation-là, si vous remontez dans le temps, est-ce qu'elle est liée à une situation? Eh bien, à un moment, elle dit, mais oui, il a le regard de mon père. Donc cette femme bossait avec ce gars-là, elle n'avait pas réalisé qu'il avait le regard de son père, et devant ce monsieur, elle était une petite fille qui avait peur de son papa. Voilà comment une émotion peut être intérioriser et ressortir. Ben oui, le directeur, c'est aussi c'est un supérieur. C'est comme le père, il est supérieur à la petite fille. Voilà. Une autre chose à bon, des circonstances comme ça, il y en a beaucoup, mais si vous voulez, il faut qu'il y ait tout un contexte pour que l'émotion se réactive et devienne parasite. Dans mon expérience, en tout cas, c'est là que prennent naissance ces états émotionnels que nous avons à traiter avec nos patients. Et la théorie polyvagale, eh bien, de Porges, nous permet de comprendre ce qui se passe et comment intervenir. Alors, la théorie polyvagale, je vous ai envoyé le résumé de Deborah Dana, qui doit vous permettre de vous éclairer, enfin, si vous l'avez lu en détail, c'est très facile à comprendre. Le système nerveux autonome régule non seulement les fonctions de nos organes, de nos viscères, de nos organes internes, mais aussi nos états émotionnels, et ces états émotionnels vont influencer nos comportements. Donc, pour mémoire, je vous rappelle que ce système nerveux autonome, tel que le décrit Stephen Porges, est composé d'un nerf qui s'appelle le nerf pneumogastrique. Alors attention, quand on dit un nerf, en fait c'est une paire, parce que les nerfs crâniens sont par paire, mais quand je dis un nerf, ça veut dire la paire. Hein? Bon. Un nerf qui est composé de deux branches. Alors, les voilà, les deux branches, elles sont là. Vous avez la branche ventrale, c'est celle qui est en blanc, qui, comme vous le voyez, va innerver surtout le visage, la gorge, etc. Ensuite, les bronches et le système cœur-poumon, et puis il va passer à travers le diaphragme, et ça va aussi innerver l'estomac. Et puis, les deux branches du système vague dorsale, les branches dorsales, donc les deux branches, elles ont aussi quelques fibres au niveau cœur-poumon, mais elles vont être principalement dans les viscères abdominaux. Bon. Et ceci va nous expliquer l'anatomie va nous expliquer comment ça fonctionne et ce qui se passe et comment on peut éventuellement intervenir. Alors, donc, il y a un nerf vague avec une branche ventrale et une branche dorsale, et il y a un autre système. Ce nerf vague, hein, c'est un nerf crânien. Hein, et ça, c'est un système qui, de ganglion tout le long de la colonne vertébrale, et ça s'appelle le système sympathique. Alors, les fonctions de ces trois systèmes nerveux, neuronaux, si vous voulez, c'est la branche ventrale, c'est la branche du lien social, de l'engagement social. Ce schéma est extrêmement parlant. Avec trois mots d'anglais, on arrive à très bien traduire ce qui se passe. L'engagement social, c'est quand on est sous le tonus de la branche ventrale, eh bien, on est bien, on est en sécurité, on peut échanger, on est attentif, on est centré. Bon, le système sympathique continue à veiller quand même, hein, bon. Mais globalement, on est en sécurité et en plus, voilà, on est bien dans son corps, quoi. On est attentionné, voilà, on est conscient, voilà. Donc ça, c'est la branche ventrale. S'il y a un danger qui se présente, eh bien, ça va se débrancher, c'est-à-dire que le système sympathique prend le dessus sur cette branche ventrale qui se déconnecte, et le système sympathique, le système fuite-combat. Donc, système sympathique, c'est on redevient mammifère, fuite-combat, on fuit si on peut, et si on ne peut pas fuir, on combat. Donc, plein d'énergie dans les jambes pour fuir, plein d'énergie dans les bras pour combattre. Si on arrive à fuir ou à combattre, eh bien, petit à petit, ce système va se calmer et on va progressivement revenir dans le lien social, dans l'engagement social, et on va pouvoir échanger, raconter, voilà ce qui m'est arrivé, et puis j'ai réussi, je suis parti, il n'a pas pu m'attraper, etc., etc. Bon, on a une histoire à raconter et a priori, il n'y a pas de trauma.
Ça y est, je l'ai.
Bon. Oui, écoute. Non, bon. Alors, maintenant, si on n'arrive pas à fuir ni à combattre, soit que
Sylvain, ton micro est coupé. On ne t'entend pas, Gilbert.
Comment? Et là, vous m'entendez?
Oui.
D'accord. Donc, j'en étais quand on arrive à quand on n'arrive pas à fuir.
On ne te voit pas, Gilbert.
Comment?
On ne te voit pas.
Ah. Ben, pourtant, la caméra est branchée.
Et moi, je vois. Je vois.
Et là? Est-ce que là, vous voyez?
Ah oui, là.
Oui, bonjour en tout cas.
Salut. C'est très sympathique.
Ça se confirme.
Comment? On peut y aller?
Oui.
D'accord. Donc, si on n'a pas réussi à fuir ou à combattre, si l'adversaire est trop fort, s'il nous a pris par surprise, s'il y a une grande différence d'âge ou de force, si, tous les moments où on est surpris comme ça, on ne sait pas quoi répondre, eh bien, c'est la branche dorsale qui va prendre le contrôle et qui va provoquer le figement. Dans le figement, notre énergie fuite combat qui a pu être activée, on ne va pas pouvoir s'en servir et c'est le moment où on s'effondre en quelque sorte. Et dans le figement, eh bien, le corps se rétracte. Le corps, c'est très intéressant de lire sur le côté de ce document ce qui se passe au niveau somatique. Quelles sont les conséquences? Alors, dans le figement, le corps se rétracte, la respiration se contracte, enfin, parce que quand on penche la tête en avant, ben on va comprimer les poumons par le haut, et à ce moment-là, le ventre va lui-même aussi repousser les poumons en haut, donc nos poumons sont pris en cisaille, en tenaille entre le haut et le bas, et donc on va respirer à minima, et ce sont nos neurones entériques qui vont prendre le contrôle du cerveau. Oui, je ne vous ai pas montré la feuille du système sympathique, hein, voilà, qui innerve, qui va dans toutes les viscères. Dans cet état de figement, la branche dorsale du nerf vague a 9 fibres sensitives pour une fibre motrice. Donc, c'est comme si le ventre envoyait au cerveau un message dans lequel il disait « c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu » et le cerveau avec sa petite fibre motrice essayait de dire « non, 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 ça va aller », évidemment, ça ne fonctionne pas. Le figement, eh bien, il va s'arrêter progressivement quand le danger va s'éloigner. Alors là, il y a quelque chose qui est curieux, c'est que les animaux savent sortir du figement. Ils sortent du figement de la façon suivante. Eh bien, quand le danger, le prédateur s'est éloigné parce que l'animal a fait le mort, eh bien, l'animal se met à courir comme un dératé, il libère son énergie de fuite. Et puis, une fois qu'il a beaucoup couru, eh bien, il va s'arrêter, il va tomber tous ses membres, et on peut supposer qu'il libère son énergie de combat. Et après, il retourne vers le troupeau. Bon. Mais nous, les humains, quand nous avons été figés, on va raconter. Et plus on raconte, plus on se traumatise, parce que plus on raconte, plus on va se connecter à « il est arrivé, il a fait ci, il a fait ça, et puis j'ai ressenti ça », et puis plus on va revivre le traumatisme, et plus on le chronicise en quelque sorte. Bon, donc là, on va essayer d'apprendre. Alors, nos techniques sont déjà extrêmement bonnes pour sortir du traumatisme. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que Tipeee, EMDR et compagnie, non, c'est très, très bon. Et il y a énormément de gens qui vont mieux grâce à ces outils. Peut-être peut-on aller un peu plus loin. Voilà, c'est ce que je suggère. Et vous verrez, on verra quel retour vous aurez de ce que je peux raconter. Bon. Alors, ce graphique est très, très intéressant. Parce qu'il vous montre, par exemple, que quand nous sommes dans l'engagement social, eh bien, nous avons une résistance à l'infection, nous avons une réponse immunitaire plus forte. Alors, c'est vraiment d'actualité, ça, en ce moment, d'essayer de stimuler nos défenses immunitaires en stimulant le tonus de la branche ventrale du nerf vague. On verra tout à l'heure un peu comment, mais déjà, on peut déjà se remémorer que quand on est présent à soi-même, quand on respire, quand on est conscient de sa respiration, que aussi il y a un antidépresseur extraordinaire et gratuit, c'est la lumière. Donc en ce moment où il y a beaucoup de soleil, se tourner vers la lumière va stimuler en nous cet état de vagotonie ventrale, cet état d'engagement social, et donc stimuler nos défenses immunitaires. Bon. Alors, donc maintenant, on va essayer de voir comment soigner, hein, puisque on a vu qu'il y avait ces trois étages, engagement social, fuite, combat, figement. Donc, comment soigner ? Ben, on soigne déjà avec nos outils classiques, et puis on va essayer d'ajouter à nos outils classiques ces petites choses auxquelles, avec quelques copains, on a réfléchi. Bon. Il y a trauma, il y a figement. Donc, dans un premier temps, on va essayer de sortir du figement. Si sortir du figement, ben, il faut déjà que le patient soit bien conscient qu'il est dans le figement, c'est-à-dire qu'il soit conscient de ce qui se passe dans son corps. Quand vous me racontez ce qui se passe, comment c'est dans votre corps ? Sentez bien. Et moi, je suis d'avis de laisser les gens un bon petit bout de temps dans leurs sensations, qui disparaissent tant mieux, mais on les remet à la cible, et maintenant, quand vous y repensez, qu'est-ce qui se passe ? Et quand vous y repassez, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, aussi observer la posture. Est-ce que les gens sont un peu comme ça, voûtés bon. Donc, si on veut défiger, eh ben, on va déjà demander à la personne de changer de posture. Donc, première chose, après avoir bien pris conscience du figement, lequel on a éventuellement accompagné de tapotements ou de mouvements oculaires pendant un petit bout de temps, on revient à la cible, vous sentez le figement. Pour vous défiger, je vais vous demander de respirer, c'est-à-dire de lever les bras pour ouvrir le haut des poumons, de basculer la tête en arrière pour libérer cette nuque qui est restée penchée pendant un bon bout de temps, et de respirer par le ventre. C'est-à-dire de ventiler, d'ouvrir les fenêtres, de sortir de cet enfermement. Et on peut y ajouter, parce que ça va stimuler les cinq nerfs crâniens de l'engagement social, on peut y ajouter quelque chose qui n'est pas très élégant, mais qui est très efficace, c'est... C'est-à-dire faire vibrer le voile du palais, ce qui stimule le larynx, le pharynx, le voile du palais, la langue et les muscles du visage, les muscles de la mastication, c'est-à-dire les cinq nerfs qui participent à l'engagement social, le cinquième, le sept, le neuf, le dix et le onze. Bon, peu importe, vous regardez dans les bouquins à quoi correspondent ces nerfs crâniens, mais le fait de faire ces mouvements vous fait sortir du figement. Et donc, on demande au patient de faire ces mouvements, puis de se remettre vers la cible, puis de refaire ses mouvements, puis de se remettre vers la cible, puis de refaire ses mouvements, puis de se remettre vers la cible, jusqu'à ce qu'il puisse se mettre dans la cible en n'étant pas effondré et sans que ça redéclenche en lui beaucoup d'émotions, d'activation. Donc ça, c'est sortir du figement. Il y a une autre façon aussi qui est assez utile pour les gens qui subissent au boulot un patron impossible, moqueur, ou même des fois, j'ai une patiente, elle est sous-directrice d'une agence bancaire, et il y a une des subordonnées qui la met mal à l'aise. Ma patiente ne sait pas comment gérer cette fille-là. Alors, moi, je conseille de faire un truc qui n'est pas ragoûtant, qui n'est pas très élégant, mais de penser à cette personne avant, quand on va la rencontrer, et de lui tirer la langue. Parce que quand vous tirez la langue, et de nouveau, vous allez stimuler les cinq nerfs crâniens. Et en même temps, tirer la langue, vous savez, c'est ce que font les gamins quand ils veulent fermer la porte. Bon, voilà. Alors, ça donne à peu près ça. Je cache avec mes mains, mais ça donne à peu près ça. je te tire la langue, je ne te crache pas dessus, mais je te tire la langue. Alors après, quand ma patiente rencontrait cette personne qui avait un malaise, intérieurement, ça faisait sourire de se dire « tu ne sais pas que je te tire la langue, toi, tu ne sais pas que je te tire la langue ». Et donc, l'autre avait perdu une partie de son pouvoir de nuisance sur ma patiente. Bon, voilà des exercices de défigement. Évidemment, vous pouvez en inventer plein d'autres. Il n'y a pas que ça que l'on peut faire comme exercice. Vous pouvez en inventer plein d'autres. Bon, deuxième niveau, sortir du figement, sortir maintenant des énergies fuite de combat. Parce que si on est arrivé au figement, il y a un moment où on a eu peur, et donc soit on a eu des énergies de fuite, soit on a des énergies de combat qui peuvent rester encore enfermées dans le corps. Ne pas oublier que quand il y a des énergies de fuite, il y a de la peur. Quand il y a de la peur, il y a souvent de la tristesse. Et quand il y a derrière la tristesse, il y a souvent de la colère et de la rage. Parce qu'effectivement, si vous êtes passé de l'engagement social au figement, eh ben, c'est que vous avez eu peur, c'est que vous n'avez pas été traité avec bienveillance. Bon, donc, il va falloir s'intéresser à ces énergies de fuite et à ces énergies de combat, en donnant à la personne l'occasion de les libérer. Alors, les énergies de fuite bloquées. Eh bien, on va commencer par la fuite. Alors, je vous donne un exemple. C'est une femme qui avait été prise en otage dans un supermarché. Le matin à l'embauche, il y a trois voyous qui sont arrivés et qui ont enfermé tout le personnel. Et un des voyous a emmené le directeur pour essayer de faire ouvrir le coffre, et il y a deux autres voyous qui sont restés. Alors, je ne sais pas combien il y avait de personnes, peut-être 10, 15, 20, je n'en sais rien. Mais ma patiente était couchée par terre au pied d'un des agresseurs. L'agresseur était debout à côté d'elle, elle voyait sa botte, et puis elle voyait tantôt son arme qui se baladait comme ça. Alors, évidemment, elle n'osait pas bouger, elle était terrorisée. Et donc, là, ce que je lui ai fait faire, je lui ai dit, écoutez, je vais vous demander de faire un exercice. Voilà, vous êtes couché. Alors, moi, évidemment, elle me racontait ça. Elle était assise en face de moi dans un fauteuil au bureau. Et elle revivait le moment où elle était couchée par terre. Elle avait les yeux fermés. Et je lui ai dit, on va vous faire faire ce que vous n'avez pas pu faire maintenant. Vous sentez bien, vous êtes couché par terre. Vous sentez le figement, vous n'avez pas respiré. OK. Bon. Et bien maintenant, mettez-vous debout. Levez-vous. Sortez de la pièce. Sortez du magasin. Allez, sortez. Bougez. Allez, respirez, bougez. Faites ce que vous n'avez pas pu faire. Voilà. Dans l'énergie de fuite, OK. Revenez, asseyez-vous, fermez les yeux, vous êtes couché par terre, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Donc là, ben oui, c'est un peu mieux. Bon. Ok, donc moi je fais des petits tapotements avec la permission de la personne sur les genoux, voilà. Et je lui dis, eh bien maintenant on va continuer l'exercice, vous allez vous lever, vous allez bousculer le voyou, allez, vous le foutez par terre en passant et vous ressortez comme si vous sortiez du magasin, vous appelez la police. Donc, évidemment, c'est virtuel, hein, mais elle se lève, elle sort du bureau, elle va dans le couloir, elle revient, elle se rassoit à sa place, et petit à petit, en alternant comme ça la cible et la liberté de bouger, eh bien, elle n'est plus figée, couchée par terre. Après, elle sentait encore l'odeur de Javel du sol, donc on lui a fait faire ça. Les odeurs, c'est assez facile, j'ai toujours des flacons de... Là, c'est de l'orange, mais ça peut être d'autres choses. Et je propose à la personne de bien sentir l'odeur qui la parasite, comme tout à l'heure la femme dans le métro. Je mets un peu d'huile essentielle sur un Kleenex, et puis narine droite, narine gauche, narine droite, narine gauche. Connectez-vous à l'odeur qui vous gêne. Et maintenant, respirez ça, droite, gauche, droite, gauche, pour effacer, pour remplacer l'odeur parasite par une odeur agréable. Voilà, donc ça c'est libérer les énergies de fuite. Au fond, c'est faire au corps ce qu'il n'a pas pu faire. Lui faire faire réellement, quoi, comme si c'était, ça s'était passé comme ça. J'ai eu une patiente, j'avais soigné, elle avait été abusée, elle avait été dans une boîte de nuit, elle a rencontré un gars, il lui a dit je te raccompagne chez toi, ok, et puis le gars s'était arrêté en forêt, et puis il avait, je ne sais plus où c'était allé, mais en tout cas, il avait été violent avec elle, et donc on a travaillé sur cette violence, la libération, et au moment où elle se sentait qu'elle était mieux, elle a dit, et maintenant je prends la clé de contact, je la jette loin dans la forêt, et je me carapate, ce qu'elle n'a pas fait du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais son cerveau a inventé une sortie de crise dans laquelle le gars était embêté, il faisait nuit, il ne trouvait pas ses clés de bagnole, et elle s'était taillée, elle avait réussi à lui échapper. Donc, et moi je la rencontre souvent maintenant, et à chaque fois, des fois on en rit, son histoire, voilà. Donc voilà, faire au corps ce qu'il n'a pas pu faire, et ça c'était pour l'énergie de fuite. Ça peut être aussi de dire à la personne de taper des pieds par terre, de faire comme si elle courait, etc. etc. Bon. En tout cas, souvent, dans l'énergie fuite, il faut faire que la personne se lève, bouge, sente que ses jambes peuvent bouger. Voilà. Après, l'énergie de combat, en général, quand les gens hébergent l'énergie de combat en eux, moi, je leur demande, comment c'est dans vos épaules ? Et là, très souvent, ils disent « Oui, je sens, c'est tendu. » Bon, c'est normal, l'énergie de combat, c'est les coups de poing qu'on n'a pas pu donner, et le mouvement s'est arrêté à l'épaule, et donc l'énergie reste bloquée là. Donc, moi, ce que j'essaie de faire à ce moment-là, c'est de libérer cette énergie de combat, soit en mimant le combat, « Allez, libérez-vous, faites comme si vous étiez en train d'avoir le dessus sur lui, etc. » Je peux aussi, très souvent il y a des situations où on est coincé, on ne peut rien faire, on est en rage, on est coincé, mais on est petit devant un grand, ou par exemple, un gamin harcelé dans la cour d'école par 3-4 autres. Bon, alors je fais une métaphore de ça, je dis, est-ce que vous permettez ? Ok, est-ce que vous voulez bien vous mettre là contre le mur ? Oui. Donc, je prends les deux mains de la personne, je les pose sur le mur, je dis, vous voyez là, il y a un grand qui vous coince, c'est pas juste, c'est dégoûtant, qu'est-ce que votre corps a envie de faire ? Essayez de vous souvenir. Alors, bon, oui, j'ai envie de repousser. Ben, allez-y, allez, repoussez-moi, levez la tête, tenez-vous droit. Repoussez-moi, faites-moi reculer, prenez le pouvoir sur moi. J'ai fait ça une fois avec un adulte, il m'a un peu bousillé une épaule, après j'ai vu un ostéopathe qui m'a remise. Bon, après, quand j'arrive au bout du bureau, on fait demi-tour, et j'invite le patient à me repousser jusqu'à me coller au mur et à sentir qu'il a pris le pouvoir. Cet exercice-là libère beaucoup d'énergie de combat. Voilà, donc, je vous raconte une autre anecdote aussi dans l'énergie de combat. C'était un monsieur qui était, il ne supportait pas d'être enfermé, ni en voiture, ni même chez lui, il était mal, chez le dentiste, dans les ascenseurs, etc. Bon, heureusement, c'est un sportif, il faisait du sport, je ne sais pas ce qu'il faisait, enfin, il avait un métier de plein air. Et un des souvenirs qu'il avait, c'est étant petit, en colonie de vacances, il avait un copain, il avait 5-6 ans, ils étaient deux dans la colonie de vacances, et il y avait deux grands qui les embêtaient. Et pour fuir ces deux grands, il s'était carapaté dans la cuisine de la colo, mais les deux grands lui ont suivi, et lui, il s'est planqué dans un placard. Il s'est planqué dans un placard, mais son copain n'a pas eu le temps de se planquer, et il entendait les grands embêter, rudoyer le copain. Et il était à la fois terrorisé, culpabilisé de rien pouvoir faire pour son copain. Bon, donc je lui dis, écoutez, donc il a 50 ans le gars, hein. Écoutez, vous allez dans ce placard, vous allez chercher s'il n'y a pas quelque chose, tiens, par exemple un petit marteau, vous sentez, il y a un petit marteau là. Bon, ben maintenant, vous allez, alors il est assis en face de moi, je fais un petit tapotement. Vous allez sortir en hurlant le marteau à la main et terroriser ces deux mots. Allez, sortez, debout. Alors il se met debout pour dire, ah, mais donnez, bougez-moi avec ce marteau comme si vous alliez Il faut terroriser ces deux grands. Alors, on lui fait l'exercice 3-4 fois de suite. À la fin, il arrive à bien le faire. Oui, ils sont bons, j'ai plus peur d'eux, etc. Et il me dit un truc, il me dit, est-ce que ça marchera avec mon père ? Père ? Ah bon, votre père ? Oui, mon père était très violent, très violent. Et quand on était petit, par exemple, j'avais deux grands frères, un peu plus grands que moi, et il les mettait à la cave. Et ma mère m'empêchait de descendre, mais j'étais terrorisé, je les entendais pleurer dans le noir. Alors, ce brave homme, grâce au petit marteau, il s'est reconnecté aux souvenirs sources qui lui empoisonnent la vie depuis toujours. Donc là, il s'est mis à pleurer, 50 ans. Hein. Donc lui et moi, on a consolé ce petit garçon, puis progressivement, finalement, il arrivait à regarder son père dans les yeux et dire « Maintenant, tu arrêtes de parler comme ça, je ne te birai pas, etc. » Enfin, d'autant plus facilement que son père est dans un EHPAD et il est à moitié Alzheimer. Donc, maintenant, les rôles sont inversés. Donc, si vous voulez, toujours l'idée, après le défigement, libérez l'énergie fuite de combat, soyez inventif, trouvez des trucs. Enfin, dans mon expérience, je constate que c'est extrêmement efficace. Alors, maintenant, on va passer. Donc, on a défigé, on a stimulé, on a vidangé, purgé, énergie, fuite de combat. On va maintenant stimuler le tonus de la branche ventrale. Et là, on se sert des exercices de Stanley Rosenberg. Je ne sais pas si vous voyez, mais le livre s'appelle « Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve ». Avoir accès au pouvoir de guérison du nerf vague, exercice d'aide, self-help exercises, donc auto-exercice pour s'auto-aider, pour l'anxiété, la dépression, le trauma et l'autisme, car Stephen Rosenberg a une façon d'aborder l'autisme qui me paraît très intéressante. Bon, l'exercice de base de Stephen Rosenberg, et je vous invite à le faire, on va le faire là si vous voulez, il est très simple. Cet exercice, il consiste à stimuler les 5 nerfs crâniens qui sont présents dans le lien social. Donc le 5, le 7, le 9, le 10, le 11. OK. Donc si vous voulez bien le faire, on va le faire ensemble. Vous allez dans un premier temps, sentez comment est votre respiration. Évidemment, vous n'êtes pas traumatisé en ce moment, mais peut-être votre respiration est un petit peu bloquée. Sentez comment c'est dans votre corps. Voilà. Et puis, vous allez ensuite tester la rotation de votre tête, à droite, à gauche, voilà, quelle est l'amplitude. Et puis ensuite, vous allez croiser vos deux mains comme ça, poser votre tête sur vos mains, tenir votre tête avec la base de vos pouces et porter votre regard à fond à droite. Le plus loin possible à droite, sans bouger la tête. C'est comme s'il y avait une lutte entre le regard et la tête qui veut suivre, mais non, vous l'empêchez de suivre. Et vous faites ça pendant 1 à 2 minutes, jusqu'à ce que vous bâillez, soupirez ou avalez votre salive. Donc voilà, vous regardez bien à droite. Alors moi, je viens de soupirer, donc je vais me partner maintenant à gauche. Je viens encore de soupirer. Et maintenant, je teste la rotation de ma tête qui est beaucoup plus ample. Alors, quand vous aurez... Et quand vous faites cet exercice, vous sentez que votre respiration devient davantage ventrale, que vos poumons se libèrent et que vos visages, les muscles de votre visage sont plus vivants. Donc ça, c'est un exercice extraordinaire qui a été mis au point par Stephen Rosenberg. Quel exercice ? C'est, à ma connaissance, le seul exercice qui stimule la branche ventrale du nerf vague. Dans d'autres livres, il y en a d'autres. Il y a en particulier le fait de se gargariser. Il y a aussi le fait de se mettre de l'eau froide sur le visage, parce que je crois que c'est le nerf numéro 7, c'est la sensibilité de la peau du visage. Et donc, si vous mettez de l'eau froide, ou mieux une douche froide, évidemment, si vous mettez de l'eau froide, eh bien, vous provoquez une vasoconstriction et après une très bonne irrigation de tout ce système. Bon. Donc, voilà. L'idée, c'est la cible, être conscient des sensations dans le corps, défiger, libérer et stimuler, tonifier. En général, dans le travail que je fais, à la fin de la séance, je demande aux patients de eux-mêmes refaire toute la séance, toutes ces étapes, se connecter, défiger, libérer, tonifier, en sachant que l'exercice de tonification, on peut le refaire plusieurs fois de suite quand tout n'est pas passé. Hein. C'est un exercice qui vous tire vers le haut. Donc, voilà grosso modo comment se déroule une consultation avec moi. Avant d'écouter vos questions, pour conclure, eh bien, il faut savoir qu'on n'a pas à frimer. C'est le patient qui guérit tout seul. Nous, on est des chiens aveugles, on marche devant, on lui indique la route et lui, il nous suit. Donc, ce que je vous expose là, c'est une boîte à outils, c'est pas un protocole. Je ne dis pas faites comme moi, je dis vous avez une boîte à outils, en plus de ce que vous savez déjà faire avec Tipeee, avec tout ce que vous savez faire d'autre, eh ben vous pouvez peut-être mettre ces outils-là dans votre boîte à bricolage. Et en tout cas, les outils, on les utilise intuitivement, c'est-à-dire moi, je déteste l'esprit protocole qui nous enferme, on n'est pas libre, il faut faire ci, le patient est sur une route, ah non, laissons-le guérir tout seul. Bon, ok. Ce sont des outils que vous pouvez tester, que vous pouvez vous approprier ou que vous pouvez laisser de côté. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci beaucoup.
Oui, moi, j'ai une question éventuellement. Merci, Gilbert.
Merci.
Gilbert, j'ai fait cet exercice de tonification, l'engagement social plusieurs fois. Je me suis aperçu que quand je bouge les yeux, en même temps, ça attire la langue d'un côté, du même côté que les yeux. Alors, je me suis dit, tiens, si j'en mettais la langue de l'autre côté, en même temps que quand les yeux vont à droite, la langue va à gauche. En fait, c'est très compliqué de faire aller les yeux d'un côté et la langue de l'autre. Alors, je ne sais pas si ça stimule quelque chose plus ou moins, mais je me suis amusé à faire ça. Autant c'est facile de faire les mains, main gauche, main droite, mais les yeux et la langue, je soumets ça à votre expérience.
Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas l'expérience, je fais l'exercice moi matin et soir. Mais j'ai oublié de vous dire, pour mes patients, je leur demande de faire cette série d'exercices matin et soir. Je leur demande de stimuler leur système nerveux autonome dans le bon sens. Et j'observe que les gens qui font les exercices au moins une fois par jour, eh bien, progressivement, ils vont beaucoup mieux et... En tout cas, la raison pour laquelle ils sont venus, celle-là, s'estompe assez vite. On ne guérit pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vont très très mal, qui ont vécu des choses épouvantables. Ceux-là, il y en a un certain nombre, ils font les exercices, ça les aide un peu, ils retombent, ça les aide un peu. Bon, on les accompagne aussi longtemps que nécessaire. Mais disons que dans les états de stress post-traumatique dans lesquels ça allait bien, il s'est passé quelque chose, depuis ça ne va plus, on peut dire que ce travail donne des résultats très rapides. Voilà. Mais je n'ai pas de réponse à cette question de la langue. Simplement, la langue, elle est aussi gouvernée par le 10, et par le glossopharyngien qui doit être le 9 et par le 10. Et donc, quand vous faites l'exercice, je ne sais pas, il faudrait peut-être demander, je ne sais pas si... quelle est la collègue qui a fait la formation avec Rosenberg? Est-ce qu'elle a une réponse? La collègue belge.
Oui, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Mais par contre, dans la formation avec Stanley, ce qu'on a vu vraiment, c'est que quand le système vague ventrale était en déséquilibre, il y avait un déséquilibre de l'aluette que l'on pouvait observer. C'est un exercice d'ailleurs qu'on a fait, observer et voir le changement après. Et je viens d'essayer de voir ce que disait Olivier et je n'ai absolument pas observé la même chose. J'ai la possibilité de mettre les yeux d'un côté, la langue de l'autre. Donc, je ne sais pas, est-ce que ce serait le signe d'un déséquilibre ou voilà, c'est à voir, mais je vais creuser, Olivier. Si j'ai des réponses, je vais aller voir aussi en neurologie et si j'ai des réponses, ben, je les donnerai. Merci.
Merci.
D'accord, de toute façon, il faut essayer. Je crois qu'on est suffisamment grand pour essayer de son côté. Mais en tout cas, merci de partager si vous avez d'autres résultats avec ça.
Moi, j'avais une question. Je suppose, Gilbert, que quand tu fais ces exercices, il y a des libérations émotionnelles qui se font.
Oui.
C'est-à-dire, je comprends, c'est ma compréhension, que le figement crée une espèce de crispation dans une partie du corps qui peut perdurer des mois, des années, des décennies, et que quand tu sors cette crispation par les exercices, c'est comme si tu ouvrais la cage de l'émotion qui a été retenue. Hein, c'est ça, d'accord.
Non, c'est en particulier le cas de cette personne dont j'ai parlé là, à qui j'ai dit de sortir du placard et qui après, finalement, il s'est connecté au souvenir source qui lui polluait la vie. C'est il avait peur que le père l'envoie dans la cave comme ses frères. D'accord.
Est-ce que tu as fait des liens avec des somatisations, c'est-à-dire des problèmes psychosomatiques, comme il y en a beaucoup, des douleurs de dos, des douleurs de ventre, des...
Tout à fait, mais il y a même beaucoup, beaucoup de maladies qu'on peut soigner comme ça. J'ai pris ma retraite de médecin, j'ai fait très vite de l'EMDR et j'avais encore des patients qui venaient un peu pour de la médecine. J'en ai beaucoup moins maintenant. Mais j'ai un certain nombre de cas, je pourrais vous envoyer, j'avais écrit ça il y a 5-6 ans, de cas de rhume des foins, d'asthme, de cystite, j'ai 3-4 de polyarthrite rhumatoïde, j'ai un cas de rectocolite hémorragique, donc des vraies maladies, quoi. C'était guéri par ce genre de soins.
Est-ce que vous avez eu le cas de migraine également, chronique?
Ben, les migraines, Rosenberg, lui, a une théorie qui me paraît très séduisante. D'après lui, la migraine, ce sont des tensions dans les sternocleidomastoïdiens et il suffit de masser délicatement les points gâchettes pour... si je retrouve le truc là, je vais vous montrer. Voilà les migraines, je ne sais pas si vous voyez.
Oui.
Suivant la localisation de la migraine, il y a deux ou trois points à masser tout doucement.
D'accord.
Et ces points, on les reconnaît parce que c'est un peu plus sensible, c'est un peu plus gonflé. Au milieu du gonflement, il y a comme une petite protubérance, comme un petit grain de poivre, un petit grain de sel.
Ouais.
Et on va tourner tout doucement, sans appuyer fort, mais on va faire bouger le tissu sur le muscle jusqu'à ce que le muscle se détende et à ce moment-là, la migraine se passe.
Et ça, on le trouve dans quel livre, monsieur, s'il vous plaît?
Dans le livre « Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve ».
D'accord. Il est que en anglais, ce livre?
Il est que en anglais pour le moment. Stanley Rosenberg. North Atlantic Books.
Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dernière, j'avais aussi une deuxième question, s'il vous plaît, si c'est possible.
Bien sûr.
Pour les personnes qui ont eu des accidents traumatiques du style accident traumatisme crânien et colonne vertébrale, accident de la colonne vertébrale, est-ce que ça ne j'allais dire, ça n'a pas, ça n'altère pas le travail sur le nerf justement que vous appelez le nerf crânien et la branche dorsale du nerf vague. Est-ce qu'on peut quand même travailler avec des gens qui ont eu des traumatismes crâniens ou des,
alors, des, moi, des accidents J'ai souvent travaillé avec des gens qui ont eu des traumatismes crâniens, ne serait-ce que parce que le trauma, en dehors de la de l'énergie bloquée par l'énergie, alors pour les Chinois c'est de l'énergie froide, hein, un trauma, mais en dehors,
d'accord,
un trauma c'est une situation de danger, donc on a activé le fuite de combat et on n'a rien pu faire. Donc si on travaille sur qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez le camion arriver, vous vous sentez, ou alors, la voiture se retourne, vous sentez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Alors oui, j'ajoute un truc. Pour ces situations-là, quand on connaît la situation, je crois que c'est très sage de travailler étape par étape, c'est-à-dire de faire du séquençage, comme on l'apprend.
Ne pas aller directement à la cible, c'est ça ?
Voilà. On va... Comment,
oui, c'est trop douloureux.
Comment a été le premier symptôme. Ensuite. Et on désensibilise étape par étape, ce qui évite les très grosses abréactions. Et voilà. Alors après, il y a l'énergie froide, un trauma, c'est du froid qui est rentré dans le corps. La meilleure technique que je connais, c'est celle d'un médecin de Melun qui s'appelle le docteur Agrapard et qui fait de la chromatothérapie, c'est-à-dire c'est de la médecine chinoise avec de la lumière.
D'accord.
Voilà, donc docteur Christian Agrapard, Melun, chromatothérapie, vous regardez sur internet, chromatothérapie.
D'accord.
Et c'est vrai que ça donne d'excellents résultats sur les séquelles de trauma crânien.
D'accord. Et par rapport à la colonne vertébrale, quand elle est touchée, en fait, ma question, c'est aussi de savoir, quand elle est touchée physiquement, la colonne vertébrale, les nerfs dont vous parlez, qui sont les nerfs vagales, de façon physique, si c'est altéré au niveau de la colonne, est-ce qu'on peut quand même aller travailler, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? S'il y a un accident grave de la colonne, est-ce que le nerf vagal, il n'a pas été touché ?
Je vais vous répondre. Les nerfs dont je parle sont des nerfs crâniens qui prennent leur source, leur racine, dans le tronc cérébral, dans le brainstem.
D'accord. Et si ce tronc cérébral est touché ?
Alors, si le tronc cérébral est touché, là, je n'ai pas l'expérience, je ne peux pas répondre. Mais le tronc cérébral, pour qu'il soit touché, il est quand même un peu à l'abri de la boîte crânienne. Hein. Il est au-dessus de... il précède la moelle épinière.
D'accord. Ok.
En revanche, les chaînes sympathiques, elles, peuvent être touchées par un trauma de la colonne vertébrale.
Oui, ok, d'accord. Merci beaucoup, c'est passionnant. Hein. Merci infiniment.
Welcome. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonsoir, oui, c'est Laurence. J'avais trois petites questions. La première, c'était pour les exercices que vous nous avez montrés, dans levant et baissant les bras. Est-ce qu'il y a une façon de respirer par la bouche, comme par exemple en cohérence cardiaque, où on met une certaine résistance dans le souffle ?
Moi, si vous voulez, ce que je fais là, c'est un bricolage. Je pense que il faut inspirer profondément, gonfler le ventre, et il faut exhaler, c'est-à-dire comme si on voulait rejeter à l'extérieur toute cette noirceur, tout ce passé, toute cette voilà. Et donc, mon idée, c'est ouvrir les fenêtres et les portes, faire un grand courant d'air pour sortir de cet état des poumons rabougris, quoi. Et surtout, penser à longueur de journée, quand on marche, de se tenir droit, penser sans avoir une attitude hautaine, mais avoir une attitude naturelle de se tenir droit, d'avoir les épaules le haut du thorax ouvert et de regarder plutôt le ciel que le trottoir, quoi. En faisant attention aux déjections canines, évidemment.
Ok, merci. Du coup, j'avais justement une autre question. Ce que vous venez de décrire, c'est des choses que je fais pratiquer en marche afghane, parce qu'on travaille sur la synchronisation de la respiration et de la marche. Oui. Et par contre, j'ai pour consigne dans les personnes que j'accompagne de faire attention si elles sont sous traitement, si elles sont sujettes à des troubles psychiques comme de la schizophrénie ou autre chose. Est-ce que du coup la question...
Comme
on travaille sur justement le système nerveux, la respiration, ça peut être plus ou moins des fois de l'hyperventilation, ce genre de choses. Dans mes accompagnements en marche afghane, on m'a formée en me disant de faire attention justement aux personnes qui pourraient avoir des troubles psychiques, comme des schizophrènes ou autres. Est-ce que du coup, ça peut, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention ou...
Je n'ai pas l'expérience. Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas l'expérience. Je ne sais pas. Je serais, si je devais soigner un schizophrène, je serais très prudent, je n'irais pas à pas. Tout doucement, voilà. Mais je n'ai pas l'expérience.
Ok, merci. Et du coup, j'en ai une dernière question. Si dans ces exercices-là, il faut donc que la personne elle ait quand même une mémoire de son trauma d'origine, ou on peut travailler sur des situations ricochées, entre guillemets.
Mais attendez, c'est l'état du corps qui nous guide. Si la patiente, le patient ou la patiente se connecte à ses sensations corporelles, les sensations corporelles peuvent nous amener aux traumas initiaux.
Ah, comme Tipeee, en fait.
On a par exemple une collègue en EMDR qui s'est spécialisée dans les traumatismes de la naissance. Eh bien, beaucoup de ces patients revivent leur naissance quand ils viennent la consulter. C'est un grand traumatisme, hein, la naissance.
Ok.
Donc, c'est la mémoire corporelle, le corps garde tout en mémoire. Pas le fait que, je ne sais pas, il a plu hier et que vous avez pris la pluie sur le nez, non. Il garde tout ce qui a été émotion, c'est-à-dire changement brusque de son environnement et de l'état du corps. À mon avis, hein, c'est ce que je crois en tout cas.
Ok, merci.
Gilbert, j'ai des personnes là qui sont sur le chat et qui ne peuvent pas poser les questions au micro, donc je vais te les relayer, si tu veux bien. Oui. Alors, c'est Dominique qui demande si tu peux donner des précisions sur le terme figé. Est-ce que ça veut dire bloqué ?
Oui, figé, c'est figé, sidéré. Je ne sais pas si Dominique a reçu le papier, là. Sinon, peut-être qu'on peut le lui faire parvenir. L'état de figé, c'est, en anglais, c'est « I can't », je ne peux rien faire. Je suis dépassé, overwhelmed, impuissant. Donc, voilà, dissocié, engourdissement, honte, perte de connaissance. Voilà, la dissociation, c'est… Enfin, je ne me souviens plus du nom du psychologue qui a écrit le bouquin « Guérir par au-delà les mots », qui fait la thérapie, bon, c'est un américain. Lui dit « Le figement, c'est la dissociation. » Quand on est en tonus dorsal vagal, eh ben, c'est qu'on est dissocié, c'est qu'on est ailleurs. Est-ce que ça répond à la question ? Ah, tu ne peux pas savoir parce que tu n'as pas la personne. C'est Peter Levine, merci. Merci à la... Peter
merci Levine. Cédric. Ok. Il y a Dominique aussi, Dominique Monette, qui dit qu'elle a pris des notes qu'elle pourra partager à chacun. Oui, bien sûr, Dominique, tu nous les fais passer, puis on les envoie avec le lien de l'enregistrement. Il y a Adrien qui demande si on peut tirer la langue en cas de hold-up.
Oui, bon, pourquoi pas, on peut essayer.
On peut essayer, oui. On peut essayer. Ça risque de rajouter du trauma.
Oui, mais il faut se méfier si on a la langue chargée, quoi, c'est tout.
Il y a Sandrine Chapon qui nous fera passer un lien aussi que je vous mettrai sur le mail, qui est un lien pour les bienfaits des postures de héros. Dos droit, main sur les hanches et tout ça.
Oui, est-ce qu'elle fait allusion au travail de Amy Cuddy? Si vous regardez sur Internet, il y a une femme qui s'appelle Amy, A-M-Y, Cuddy, C-U-D-D-Y, qui parle des différentes postures et elle dit par exemple « Votre posture shapes, détermine who you are ».
D'accord.
Donc, cette posture-là du vainqueur, eh bien, cette posture, elle stimule la sécrétion de testostérone et elle diminue la sécrétion de cortisol. Donc, elle est anti-stress.
Oui, c'est bien elle, nous dit Sandrine. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions en direct ou ceux qui n'ont pas de micro peuvent passer par le chat et je les relaye?
Est-ce qu'il y a des formations un petit peu plus longues? Je sais que Déborah Dana vient parfois en France, mais elle vient au sein d'instituts souvent.
Oui, surtout avec les ostéopathes. Hein.
Oui. Elle vient aussi pour des écoles de psychothérapie, enfin elle vient pour l'IFS parfois. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui forment?
Je ne connais pas. À ma connaissance, je ne les connais pas, mais peut-être que notre collègue belge les connaît.
Dominique, non?
Non, et Stanley Rosenberg est extrêmement malade, donc lui ne donne plus cours non plus. Je sais que Deb Dana vient en Belgique, mais c'est déjà full pour l'automne prochain. Et non, je ne sais pas.
Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant, passionnant.
Bon, merci, c'est gentil.
Alors, j'ai encore une question de Martine qui dit « Dans la pratique de Tipeee, on ne travaille pas sur la situation directe du trauma. Quand vous parlez de cible, est-ce la situation d'origine du traumatisme ex-abus sexuel, abusement sexuel, l'abus sexuel ?»
Ben, si vous voulez, au départ, les gens viennent pour une situation… Et cette situation nous conduit des fois à découvrir qu'il y a eu abus sexuel. Ou bien, il y a des gens qui viennent en me disant carrément ben, « j'ai été abusé à l'âge de » et voilà, je ne peux plus, etc. Bon, homme ou femme, hein, il y a beaucoup d'hommes abusés aussi, ne nous trompons pas. Hein. Voilà, moi je demande aux gens « pourquoi vous venez me voir ?» Racontez-moi un petit peu ce que vous avez eu comme traumatisme important. Et puis, voilà, en général, ils viennent pour une chose précise, particulière, dont ils voudraient se débarrasser. Et très souvent, ça nous conduit à toute une histoire.
Ok. Merci beaucoup. Est-ce que la réponse convient? Je vais voir si j'ai une réponse. Je veux bien les liens, je veux bien que vous me les envoyiez sur un mail de l'APES, vous fassiez une réponse parce que je ne suis pas sûre de tous les récupérer là, sur le chat.
C'est à moi que vous parlez?
Non, je parle à tout le monde là. Excuse-moi Gilbert.
En cliquant dessus, on est connecté à la page là, si tu...
Oui, ouais, d'accord.
Le chat, si tu te mets, la page est connectée. Après, tu peux le récupérer, je pense.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci beaucoup, en tout cas, Gilbert. C'était passionnant. Je crois que je relaye l'avis de tout le monde.
Merci, Gilbert. Viviane, tu me reconnais?
Bruno de Montalivet, merci. Viviane qui?
Acoca.
Ah bah oui, bien sûr, Viviane Acoca, bien sûr, grande amie.
Ben, merci, oui, tout
merci
le monde est...
Beaucoup. Merci beaucoup.
Bon. Welcome, et si vous avez des questions, ben, vous aurez mon mail. Hein,
une question dans le chat.
Oui.
Et j'ai mis la question, se libérer à distance du trauma, c'est ce que j'aime moi dans Tipeee. Je trouve ça écologique et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Je n'ai pas compris la question.
Alors, se libérer à distance du trauma, c'est possible quand on utilise la régulation émotionnelle qu'on appelle Tipeee, on va dire. Moi, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire, qu'on n'est pas obligé de revenir au trauma et que la libération se fait à distance.
C'est-à-dire que l'état d'aujourd'hui, quand on le travaille, va libérer le passé.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu par exemple une jeune femme qui avait été violée et je ne savais pas pourquoi elle venait et elle a travaillé sur « je ne supporte pas que mon frère tape sur le tableau de bord de la voiture ». Et ça, ça les a libérés des syndromes post-traumatiques.
D'accord. Mais si moi je laisse le corps me dire où il veut aller. Donc s'il veut aller jusqu'au trauma, ben, comme ce monsieur qui a explosé en pleurs à l'âge de 50 ans, c'était un petit garçon de 4 ans, et ben, là on sait qu'on est dans le vif du sujet et que en pensant ce petit garçon, en lui redonnant des outils pour se défendre, en lui faisant comprendre qu'il a été hyper courageux depuis cet âge-là, qu'il a, etc., etc., ben, ce monsieur, il va bien maintenant, si vous voulez. Il est libéré. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est vrai que ça peut être extrêmement rapide. Ça peut être en une, deux séances que tout s'efface. Mais là, ce sont des cas dans lesquels il y a un trauma, enfin, ou une situation traumatisante répétitive.
Merci. J'ai encore une question. Est-ce que, de votre point de vue, la régulation émotionnelle peut aider à lever l'amnésie traumatique?
Alors, la libération émotionnelle, c'est le travail de Tipeee. Hein?
Oui.
Alors, je ne sais pas si je suis up-to-date pour Tipeee aujourd'hui, parce que moi, j'ai été formé à l'époque où on devait se connecter à 3 sensations et attendre que ça passe. Donc, ça a changé depuis. J'avais fait le niveau 1 et 2, quoi, c'était ce qu'on faisait à l'époque. Et l'amnésie post-traumatique, ben c'est cette dame qui fait une crise parce que au fond, elle n'était pas connectée à son traumatisme. Peut-être que ça perturbait sa vie sentimentale ou sexuelle ou autre, mais ce qui a fait réapparaître le traumatisme, c'est le fait qu'il y ait ce parfum. Hein. Et donc, ben, l'amnésie a été levée, là. L'amnésie, c'est aussi beaucoup, souvent, le fait que les gens veulent enfouir le souvenir et ne pas s'en souvenir. Et puis, le fait que les enfants tout petits, ils ont vécu des choses, des fois, qu'ils n'ont pas compris, et adultes se disent, je me demande si il ne m'est pas arrivé ceci ou cela, parce que de temps en temps, j'ai des images qui, etc. Oui.
Merci.
Welcome.
Bien. Alors, tu as tous les remerciements de tout le monde, hein, Gilbert. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
Gilbert, juste une chose. Je voulais quand même vous conseiller les excellents enregistrements de Janina Fischer qui travaille en sensorimoteur avec Pat Ogden. Elle a un site formidable. Effectivement, ses cours sont payants. Mais c'est une mine d'or sur le travail du corps. Donc, c'est exactement ce dont Gilbert nous a parlé aujourd'hui. Mais c'est vraiment une mine d'or. Je me suis procuré un enregistrement, 5 enregistrements sur un thème précis. Et c'est vraiment exceptionnel. Donc, voilà.
Comment il s'appelle ? Parce que moi, j'ai fait la thérapie. J'ai fait les deux premiers niveaux en TSM.
Janina Fischer.
D'accord.
Janina Fischer, F-I-S-H-E-R. Et elle travaille donc avec Pat Ogden.
Elle est formatrice, je crois.
Elle est formatrice, mais elle est exceptionnelle. Voilà. Je crois que le site américain s'appelle Tessie, mais si vous allez sur son site, vous allez pouvoir trouver toutes sortes de choses. C'est vraiment une mine d'or parce qu'elle utilise elle travaille, donc il y a quelqu'un qui l'interviewe et puis on voit il y a des tas de vidéos avec des patients et c'est vraiment exceptionnel.
Bon, ben ça c'est intéressant. Bonjour Anne-Marie. Anne-Marie Piffaut.
Ah, voilà.
D'accord. Bon, de toute façon, on peut garder le contact. Et puis, si vous-même, vous avez voilà, des choses à partager, c'est évidemment avec plaisir.
Alors, juste avant de Gilbert, il y a Anne-Marie Piffaut donc, qui a posé une question. Est-ce que tu l'as vue ou pas ?
Je n'ai pas vu, j'ai vu Anne-Marie.
Ok. Alors, est-il obligatoirement avoir confiance pour guérir ? J'ai reçu des personnes qui ont guéri de maladies alors qu'ils n'en aient jamais parlé en consultation. Ils n'en avaient jamais parlé en consultation. Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le travail n'est pas forcé de se faire. Est-ce qu'ils en ont eu conscience eux-mêmes chez eux au cours de rêves ou de... Bon, ce n'est pas forcé forcément devant le thérapeute que ça se passe. Hein. Le travail se continue. La nuit, le jour, etc.
Très bien.
Est-ce que je peux poser une question ?
Bien sûr.
Je me demandais si vous rencontrez, enfin ça pourrait faire l'objet d'un autre session, quand vous rencontrez des résistances ou des obstacles dans ce que vous voulez faire surgir chez le patient. Ça aurait été intéressant que vous développiez peut-être ça.
Écoutez, moi, je ne veux rien. C'est-à-dire, s'il y a des résistances, c'est sûrement pas à moi d'essayer de les lever. En revanche, les résistances, elles sont dans le corps, donc on peut sentir à quel endroit de votre corps. Voilà. Mais si les gens disent « Oh là, je m'approche quelque chose, j'ai pas envie d'y aller », ok, bien, surtout ne... je crois qu'il faut beaucoup se départir du sentiment de toute puissance. On est là pour aider. Si les gens ne veulent pas aborder tel ou tel problème ou éventuellement ne pas l'aborder avec nous, peut-être aller voir quelqu'un d'autre pour aborder ça, bien sûr.
D'accord, merci. Merci beaucoup.
D'accord. Non, on est là, on a des outils, on les propose. On ne sait pas tout, on ne sait pas tout faire, on ne peut pas tout. Il y a des fois où on a de l'intuition, des fois on est sec. Bon.
Ouais, merci. Merci. Et est-ce qu'il y a encore des questions ? Bon, ben, écoute, vraiment, merci infiniment, Gilbert.
D'accord. Merci. Merci à tous.
Merci beaucoup.
On va refaire passer tes documents dans le deuxième mail parce que je ne sais pas si tout le monde l'a eu. Et puis, ouais, tu as les remerciements de tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous aussi.
Merci Gilbert.
Merci Gilbert.
Au revoir.
Merci, au revoir à tous.
Bonne soirée.
Bonne continuation à tous.
Bonne continuation.
Merci Gilbert.
Allez,
merci.
Au revoir.
Merci Gilbert.
Je t'en prie, au revoir.
Merci Gilbert.